Bonsoir ou peut-être bonjour, ici à Paris il est maintenant 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans 10 minutes, ce sera Dimanche Politique avec vous, Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut IFOP, mais tout de suite le journal. Dans l'actualité du monde, la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui auront lieu dans les prochains jours. Les préparatifs de la conférence internationale et surtout européenne qui aura lieu demain à Paris au sujet de l'Ukraine. Et puis les sports avec du tennis entre autres. Le français Hugo Humbert conserve son titre au tournoi de Marseille.
RFI.
Les négociations portant sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vont se poursuivre cette semaine. Annonce faite par l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Cette deuxième phase doit porter sur la libération de tous les otages restants et le retrait total des troupes israéliennes de la bande côtière. Par ailleurs, Marco Rubio est à Jérusalem. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le premier ministre israélien. Il dit ce soir condamner la dépravation, dit-il, du Hamas qui détient des cadavres d'otages à Gaza. Le compte-rendu de cette rencontre avec Michel Paul à Jérusalem.
3 heures d'entretien et des déclarations conjointes qui montrent à quel point Israël et les États-Unis sont à l'unisson. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination, proclame le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours dévoiler les détails en public. Notamment quand les portes de l'enfer vont s'ouvrir, comme ce sera sûrement le cas si tous nos otages ne sont pas libérés, jusqu'au dernier.
Position très ferme du secrétaire d'État américain sur la question des otages. Nous œuvrons très étroitement ensemble à leur retour. Le Hamas doit être éradiqué en tant qu'entité militaire et gouvernementale, dit-il encore. Marco Rubio qualifie le plan de Trump sur Gaza d'audacieux.
Le président s'est montré aussi très résolu sur sa vision de l'avenir de Gaza. Cela a pu choquer et surprendre certains. Mais on ne peut pas continuer un cycle où l'on se répète incessamment pour arriver au même point.
Autre point d'accord, l'Iran, la source d'insécurité prépondérante dans la région, selon Marco Rubio. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Par ailleurs, des avions israéliens ont mené 3 frappes dans la vallée de la Beka, dans l'est du Liban, précisément aux abords du village de Arbata, et une 3e frappe sur le village même. L'armée dit avoir frappé des positions du Hezbollah. Demain, le sort de l'Ukraine se jouera en partie à Paris. Seront réunis les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Cette rencontre intervient alors que les initiatives de Donald Trump, qui a repris langue avec le président russe, inquiètent les Européens. Ce que dit déjà le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre. Et d'ailleurs, nous les soutiendrons tant qu'ils n'auront pas pris cette décision. Les Ukrainiens n'arrêteront jamais de combattre tant qu'ils ne seront pas sûrs que la paix qui leur est proposée sera durable. Donc ils n'arrêteront que lorsqu'ils auront la certitude d'avoir suffisamment de garanties entourant cette paix. Qui apportera ces garanties? Ce seront les Européens. Les Européens, je l'ai dit, et il faut nous y préparer. C'est pour ça qu'on multiplie les contacts. C'est pour ça qu'il y a un vent d'unité qui souffle aujourd'hui sur l'Europe. Devront apporter ces garanties de sécurité pour éviter que la guerre ne reprenne quelques semaines ou mois après un premier cessez-le-feu. Les États-Unis se sont dotés d'une nouvelle administration qui a compris que son rôle, c'était d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations et qui, pour l'instant, se dit « je vais y arriver par un mix, si je puis dire, de pression et de dialogue, je te convainc d'y aller ». Même si je ne veux pas faire de politique fiction, ils vont rapidement comprendre que seule la pression sera susceptible d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations.
Le chef de la diplomatie française sur France Inter. L'enquête après l'attaque de Villach en Autriche, l'auteur de l'attaque à l'arme blanche qui a coûté hier la vie à un adolescent de 14 ans, avait prêté allégeance au groupe État islamique et s'était radicalisé sur Internet. Le HIC n'a pas revendiqué cette attaque pour le moment. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent de manifester à Berlin pour refuser que l'extrême droite gouverne. Les protestataires réagissaient aussi au fait que le vice-président américain, présent en Europe, a lancé un appel aux partis allemands pour s'engager dans cette voie. Le mot d'ordre du rassemblement d'aujourd'hui à Berlin était « main dans la main, nous sommes le mur par feu », cela à une semaine des élections législatives dans le pays. Un an, jour pour jour après sa mort dans des circonstances troubles, dans une prison reculée, la France dit tenir les autorités russes pour pleinement responsables du décès d'Alexeï Navalny. Paris continue de demander qu'une enquête indépendante et approfondie soit conduite pour faire toute la lumière sur les conditions de sa disparition. Plus d'1 millier de partisans de Navalny se sont recueillis aujourd'hui sur la tombe du célèbre donc opposants, c'était à Moscou, malgré le risque de représailles.
Je vis en Russie et j'ai peur. Nous avons tous peur de Vladimir Poutine et de son régime.
Je ne crois pas prendre un risque. Quel crime on commettrait en allant juste déposer des fleurs au cimetière? La police est là, formidable, on va lui sourire.
On est venu à la fois chercher du réconfort et envoyer un message. Se rappeler de lui aussi. C'est quelqu'un qui nous est proche, comme un parent. Pour moi, il est mort à cause de nous, parce que nous n'avons pas su le protéger et je me sens coupable.
Moi, je voulais montrer que son travail est toujours actuel et que tout ce qu'il a fait n'est pas oublié, qu'il y a suffisamment de monde parmi ceux qui sont encore vivants pour porter ce qu'il a fait.
Oui, Alexei n'est plus avec nous, mais son travail, lui, vit toujours et nous devons le continuer.
Témoignage recueilli par Anissa El-Jabri à Moscou. Et puis, sachez que le vote du public pour désigner son favori parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI se termine ce soir à minuit en temps universel, 1h à Paris. Vous pouvez exprimer vos préférences en vous rendant sur l'adresse www.prixdécouverte.com. Les sports, le football, Christophe Dirimbian avec la suite et la fin de la 22e journée de Ligue 1. Lyon confirme son regain de forme aux dépens de la lanterne rouge.
Oui, victoire de l'OL 4-1 à Montpellier. Tout s'est véritablement joué en seconde période lorsque les Lyonnais ont passé de la vitesse supérieure. Après 45 premières minutes, plus timide, expliqué par le défenseur angolais Clinton Mata.
Je pense qu'en première mi-temps, on a été mis un peu en difficulté en leur laissant un peu d'espace. Donc forcément, quand tu laisses une équipe jouer, ils ont montré qu'ils avaient aussi des qualités. Et je pense que c'est le genre de match qu'ils voulaient, un match assez lent pour essayer de nous endormir. Et malheureusement, on est tombé dans ce piège-là. Et en deuxième mi-temps, on a su rectifier le tir. C'était aussi à nous de pouvoir trouver des passes qui puissent mettre l'adversaire en danger. Et en deuxième mi-temps, là, on a été chercher directement la profondeur pour pouvoir élargir ce bloc. Et ça a donné beaucoup plus d'espace au milieu de terrain de pouvoir jouer.
Clinton Mata sur DAZN. Trois autres matchs sont sur le point de se terminer. Strasbourg mène à Lens 1-0. Nice mène au Havre 2-1. Et Angers mène à Reims 1-0. À 19h45, temps universel, Rennes accueille Lille. Liverpool, de son côté, reprend ses distances avec Arsenal au sommet de la Première Ligue. Les Reds l'ont emporté, non sans mal, sur le mal classé Wolverhampton 2-1 et compte de nouveau 7 points d'avance sur les Gunners.
Et en Italie, le football, c'est le choc du soir qui oppose la Juventus à l'Inter de Milan.
Objectif des interistes, chipper la place de leader à Naples, ralenti dans sa course au titre par un nul de partout hier sur la pelouse de la Lazio Rome. L'inconnu à 1h30 du coup d'envoi, c'est la présence ou pas de Marcus Thuram. L'international français de l'Inter est touché à la cheville depuis une semaine et son entraîneur Simone Inzaghi n'est pas très optimiste pour ce soir.
Insomma, Thuram, sappiamo tutti l'importanza che ha nella nostra squadra.
Nous sommes tous conscients de l'importance que Thuram a dans notre équipe, mais à ce stade, la tendance concernant sa présence penche plutôt vers le non que vers le oui. C'est un garçon généreux qui, lundi dernier, s'est dit disponible malgré le coup qu'il avait reçu à Florence. Mais jeudi, il a dû sortir après 25 minutes. Il doit prendre soin de lui, il travaille tout seul et nous verrons s'il peut démarrer ou s'il pourra donner un coup de main.
À darci una mano.
Simone Inzaghi, Juve Inter, 19h45, temps universel.
Du basket avec le traditionnel match de gala de la mi-saison en NBA, le match des étoiles, le All-Star Game, qui se tient donc la nuit prochaine à San Francisco.
Avec une formule revue et corrigée sous forme de mini-tournoi à 4 équipes et de matchs courts et un petit nouveau de domaine 24 quand même. Invité à la table des grands, Victor Wembanyama, aux côtés des légendes LeBron James et Stephen Curry, le pivot star des Spurs de San Antonio, fait partie de l'équipe des joueurs étrangers de cette édition qui commence à 1h TU.
Et puis le ski alpin avec la fin des championnats du monde à Saalbach en Autriche. Et c'est un Suisse qui a remporté la dernière épreuve, le slalom.
Loïc Meyer a dépoussiéré véritablement le palmarès helvétique dans cette spécialité puisqu'il est le premier depuis 1950 à décrocher l'or mondial en slalom. Il a devancé le Norvégien Atle Lee McGrath de 26 centièmes et l'Allemand Linus Strasser de 52 centièmes. Pas de Clément Noël sur le podium. Alors qu'il était grand favori, le champion olympique français a enfourché une porte lors de la seconde manche. Son échec fait que les tricolores reviennent totalement aux bredouilles de ces mondiaux et ça n'était pas arrivé depuis 2003. Le zéro pointé n'est déjà plus ce qui menace les biathlètes français dans leurs mondiaux à l'Enzerheide en Suisse puisqu'ils en sont déjà à 5 médailles. 2 de plus en bronze aujourd'hui pour Justine Brezaz-Boucher et Eric Perron en poursuite, épreuve remportée respectivement par l'Allemande Franziska Preuß et le Norvégien Johannes Bø.
Voilà pour les sports. Vous écoutez Radio France Internationale. Tout de suite, c'est Dimanche Politique.